J'aimerais partager avec vous une méditation. Je vais couper aussi. Ça fait désordre quand même. Hein, le prédicateur qui a le téléphone qui bip. J'aimerais partager avec vous une méditation, une prédication plus courte. Les enfants sont avec nous, mais les enfants, vous allez participer. J'ai besoin de vous dans une minute. Je vais en appeler. Mais avant ça, j'aimerais lire le texte sur lequel nous allons méditer ce matin. Et c'est aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Texte très court, Marc, chapitre 4. Versets 30 à 32, trois versets. Jésus disait encore, « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu ? Avec quelle parabole en parlerons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et elle devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux des cieux font leur nid à son ombre. » Voilà notre lecture. Juste cette parabole de Jésus. Est-ce que tu peux mettre la photo, Elliot ? Voilà la photo d'un bébé, d'un enfant. Noël, c'est le jour où on fête la naissance de Jésus. Alors, ce n'est certainement pas le bon jour anniversaire, mais peu importe, parce que c'est une bonne chose que de fêter cette naissance. On aime les bébés. On aime les bébés parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils sont attendrissants. Et même quand on est endurci, voire un tout petit comme ça, qui dort tout mignon, ça nous ramollit. Regardez celui-ci. Que deviendra-t-il ? Ou que deviendra-t-elle, d'ailleurs ? Va-t-il réussir dans la vie ou galérera-t-il ? Est-ce qu'il aura une belle carrière ? Est-ce qu'il aura des responsabilités, du pouvoir peut-être ? Est-ce qu'il sera riche ? Où est-ce qu'il sera dans la difficulté, dans la pauvreté? Est-ce qu'il va mourir jeune? Quand on le regarde comme ça, personne ne peut dire. Et lorsque Jésus est né, qu'ont vu ceux qui en ont été témoins? Qu'ont vu les bergers qui sont allés le voir, comme Monique nous l'a lu? Ils ont vu un enfant, un nouveau-né. Qu'allait-il devenir ? Vous avez entendu la lecture biblique, on parle de graines qui se développent. C'est un texte d'ailleurs sur lequel on a déjà prêché cette année. Hein. C'était Philippe qui prêchait dans la version de l'évangile de Matthieu. Je disais que j'avais besoin d'enfants et il me faudrait trois enfants. Alors, est-ce que j'ai des volontaires ? Thibaut. Voilà. Super, Max et Victor. Impeccable. Alors, j'ai des graines. Ça. C'est pour Thibaut. Une graine. Max, je te donne celle-ci. et Victor. Est-ce qu'on a une image avec des graines, Elliot, sur la suivante? Voilà, merci. Alors attends, j'en ai deux là. Une pour toi et une pour le sachet. Est-ce que vous pouvez les montrer? Est-ce que vous voyez les graines? Hein? Quand Jésus disait que c'est petit, une graine, on en a l'illustration. Si vous mettez cette graine dans la terre, votre graine, qu'est-ce qui va pousser? Un végétal, c'est pas bête, mais lequel? Est-ce que vous avez une idée? Si vous pouvez les aider, qu'est-ce qui va pousser avec leurs graines? Ben oui, vous ne voyez pas les graines. Allez montrer vos graines là. Il y en a qui savent reconnaître avec les graines ce que ça va donner. Ah oui, perdez pas vos graines. Hein. Voilà, donc là, on a une courge qui a été identifiée. Voilà. Vous pouvez revenir. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui va pousser? On peut savoir quand même. On peut avoir une idée, non? Qu'est-ce qu'il y a, James? Il y a marqué sur le sachet. Absolument. Absolument. Alors, revenez par ici. Alors, Thibaut. Qu'est-ce qui va pousser si toi tu le mets? Tiens, parle dans le micro, approche-toi, tiens, on va baisser ça. Hop. Vas-y. Qu'est-ce qui va pousser?
Un basilic.
Voilà. Du basilic. Max. Alors, vas-y. Et puis après. Tiens, regarde, dans le micro.
Une courge.
Une courge, Jack B. Little. Victor? Vas-y, dis-le dans le micro.
Radis.
Voilà, un radis. Elliot, tu peux avoir... voilà, un radis, des petites courges. Vous pouvez retourner vous asseoir. Vous pouvez garder vos graines. Une courge, un radis, du basilic. Grâce à James qui a trouvé comment faire, on peut regarder sur le paquet. Et dans le récit de la nativité qu'a lu Monique, il y en a qui ont lu le paquet. C'est les anges. Les anges, eux, quelque part, ils ont vu le paquet avant que Jésus ne naisse, avant qu'il soit là sous la forme d'un bébé. Et du coup, ils savent ce que ça va donner, et il donne l'information. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Ça vient poser une question aux témoins de la scène. Est-ce qu'ils croient ce qui est écrit sur le paquet? Est-ce qu'ils croient ce que les anges leur ont dit? Est-ce que vous croyez que cet enfant va donner le Sauveur? Il sera le Christ, le Seigneur. C'est une question qui est posée. Et sincèrement, quand on voit un tout petit, comme Elliot, quand on voit un tout petit comme ça, c'est difficile à croire. Comme quand on voit une petite graine. C'est difficile à croire ce que ça va donner. Avec la parabole que nous avons lue, Jésus vient dire que le règne de Dieu vient tout petit et avec discrétion. Quand il parle du règne de Dieu, il ne parle pas forcément de lui directement, mais je ne peux pas m'empêcher de voir un lien. Jésus est venu comme le plus petit, mais il est venu avec la vocation de devenir grand. Et il le fait discrètement, calmement, doucement. J'aimerais lire deux textes prophétiques qui illustrent ce que je veux dire. Le premier, il a été écrit vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, par le prophète Isaïe. Eliott, est-ce que tu peux l'afficher ? Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. On n'entendra pas non plus sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau déjà plié. Il n'éteindra pas la lampe qui faiblit. Mais il libérera réellement selon le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas. Il ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde et que les populations lointaines attendent son enseignement. Ce texte, cette prophétie d'Ésaïe, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi parce que nous vivons dans un monde où il faut s'affirmer, où il faut se faire entendre, où il faut défendre ses droits. Mais le serviteur choisi par Dieu ne joue pas dans ce registre. Comment va-t-il faire ? Il risque de se faire marcher dessus, risque de se faire victimiser, comme on dit. Alors comment peut-il espérer régner ? Chez nous, on n'a pas de roi, mais on a des personnalités politiques qui veulent devenir président et quand on regarde les débats, on se coupe la parole, on lève le ton. Le serviteur, au contraire, il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. On n'entendra pas non plus au coin des rues. Et dans ce monde compétitif dans lequel on regarde au-dessus, vers celui qui a plus que nous et qu'on envie, vers celui à côté de nous qui peut-être nous concurrence, il va nous passer devant, le serviteur, lui, il regarde en dessous. Il ne cassera pas le roseau déjà plié. Il n'éteindra pas la lampe qui faiblit. Mais il libérera réellement selon le droit que j'instaure, dit Dieu. Et Jésus dira qu'il est venu dans le monde non pour être servi, mais pour servir. Et cette attitude, le silence, regarder en dessous, ce n'est pas un signe de faiblesse de la part du serviteur. C'est un signe de force. Il ne faiblira pas. Il ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde et que les populations lointaines attendent son enseignement. Malgré la difficulté de la tâche qu'il attend, il y a la promesse qu'il ira jusqu'au bout. N'est-ce pas là une preuve de force ? Moi, ça m'interroge. Comment un tel programme peut-il marcher ? Ça défie la logique humaine, ça défie ce qu'on observe dans le monde. Mais la Bible affirme que ça marche. En tout cas, c'est comme ça que Dieu veut agir et c'est pour ça qu'il envoie son Christ. Je vous ai parlé de deux prophéties. La deuxième se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 31. Daniel travaillait pour Nabucodonosor, l'empereur, et l'empereur a fait un rêve qu'il fallait interpréter. C'est plus compliqué que ça, vous pouvez lire l'histoire, mais là je résume. Voici ce que dit Daniel. Voici ce que tu as vu. Devant toi se dressait une très grande statue, d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds moitié en fer, moitié en terre cuite. Tu as vu cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans l'intervention d'aucune action humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et elle les a fracassés. Alors d'un seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'or, le bronze, l'argent, l'or, furent réduits en poussière que le vent emporta comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales en été. Aucune trace n'en subsista, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne remplissant toute la terre. Tel fut le rêve et son interprétation que nous exposons au roi. Toi, mon roi, tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu des cieux t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Tu en es le maître partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en or, c'est toi. Un autre royaume, moins puissant que le tien, s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume, représenté par le bronze, s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et broie tout ce royaume, écrasera, pulvérisera les royaumes précédents. Enfin, ainsi que tu l'as vu, les pieds et les orteils étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer. Cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui quelque chose de la solidité des fers, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre d'argile. Mais les orteils des pieds où le fer et la terre cuite étaient mélangés montrent qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à la terre d'argile, ils indiquent ainsi que des rois s'allieront par des mariages, mais ces alliances ne seront pas solides, pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera pour toujours. C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune action humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, la terre cuite, l'argent et l'or. Le grand Dieu a ainsi fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite. Le rêve est sûr. Son interprétation est digne de confiance. Cette pierre qui se détache et qui vient pulvériser les différents royaumes terrestres, c'est le règne de Dieu. C'est lui qui est venu s'incarner en Jésus à l'époque du grand empire romain. C'est lui qui demeure, qui forme une montagne appelée à recouvrir toute la terre. C'est lui qui ne sera jamais détruit. C'est lui que Jésus a annoncé dès le début de son ministère, comme nous l'a lu Chantal. Avec la venue de Jésus, ce royaume, ce règne s'est approché. Mieux, il a commencé. Nous sommes simplement dans un entre-deux. Un temps d'attente du retour de Jésus et de l'établissement de ce règne dans toute sa visibilité. Oui, nous attendons, mais ce règne a commencé et il est en marche. Aussi vrai que Jésus est venu parmi nous, et qu'il nous donne son esprit pour marcher avec lui. Aujourd'hui, pour Noël, nous avons cette question. Quand nous voyons l'enfant, qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Jésus est venu comme le plus petit, comme une toute petite graine, sans qu'on sache ce qu'il allait donner. Mais avec cette annonce, il allait devenir le plus grand. Pas un plus grand qui domine, pas un plus grand qui écrase, qui est plus fort, qui bat ses adversaires, mais un plus grand qui protège, un plus grand qui abrite, un plus grand dans lequel les hommes du monde entier peuvent venir trouver un abri. Aussi, je vous pose la question, est-ce là ce que vous croyez? Est-ce là ce que nous croyons? Est-ce que nous pouvons dire avec foi ce qui est dans le symbole des apôtres? Je crois en Jésus-Christ, Fils unique du Dieu unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Voilà notre espérance. Aujourd'hui, ce que nous voyons peut sembler petit. Pourtant, la Bible nous promet, à l'instar des indications sur un paquet de graines à semer, que malgré les apparences, il est né un sauveur et qu'il reviendra. Et alors, notre salut sera complet. Amen. Je vous invite à prendre un moment de prière dans votre cœur ou à voix haute pour vous tourner vers Dieu, pour répondre à cette question qu'il nous pose de ce que nous croyons, pour le louer, pour le mettre à la première place, celle du plus grand, de cette montagne la terre, de ce grand arbre dans lequel les oiseaux du monde entier peuvent venir nicher. Prions. Sentez-vous libre de faire monter vos prières.